sans frapper sur la première.
Mais comment sommes-nous tous devenus aussi cons et allons-nous le rester ? C'est la remarque et aussi la question que pose Nicolas Vado. Bonjour Nicolas Vado.
Bonjour.
C'est le titre de votre dernier recueil de dessins de presse. C'est préfacé par Alex Vizorek. Nous parlerons aussi de Madame Ronchard, parce que là, vous n'êtes plus dessinateur de presse, vous êtes dessinateur et scénariste tout court. On rappelle, ça fait une vingtaine d'années que on vous connaît, que vous sortez des recueils de dessins de presse, des bandes dessinées aussi. Il y a eu Norbert l'Imaginaire et puis plus récemment, Maudit Mardi. Ce titre d'abord, je voudrais qu'on le décortique. Comment sommes-nous tous devenus aussi cons et allons-nous le rester ? Évidemment, quand on voit la bande dessinée de loin, c'est tous cons. C'est les deux mots qui ont été mis en évidence.
Absolument.
C'est vraiment la question que vous nous posez et que vous vous posez.
Que je me pose aussi parce que en début d'année 2019, je déjeunais avec Yves Sand, qui est le scénariste de Blake et Mortimer.
Entre autres, oui.
Entre autres, qui est un ami et qui est mon voisin, mais qui a été aussi mon premier éditeur au Lombard et qui a gardé des réflexes d'éditeur. Et donc, on parlait de ce qu'on allait faire cette année. Et puis moi, je disais, c'est l'année 2019, c'est la fin de la décennie. Moi, je ferais bien peut-être un recueil qui reprendrait la décennie écoulée de Sarkozy à Macron, de Obama à Trump, de la crise politique belge à la crise politique belge. Et puis, il me regarde, il me dit, ouais, mais ça, je m'en fous, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on est tous devenus aussi cons et aussi vite. Et là, je me suis dit, boum, ah, super.
Et vous ne l'aviez pas remarqué.
Et non, mais surtout, il m'a donné le titre tout cuit. Et après, c'est... Il suffisait de dérouler la pelote. Et comme en plus l'année 2019 n'était pas une année extrêmement saillante politiquement, enfin, il n'y a pas de personnage, c'est pas une année comme 2016 ou 2017 qui sont des années charnières.
Oui, et puis des années de changement aussi.
C'est pas une année de changement en 2019. Et je me suis dit, ah ben on va partir plutôt de quelque chose de thématique sur la connerie. Donc j'ai découpé ça en 8 chapitres. Il y a des dessins qui ont été faits cette année et il y a des dessins qui ont été faits il y a 20 ans. Et une fois que j'avais ce canevas, ce titre, eh bien je pouvais tout mettre dedans. Et il suffisait de découper ensuite pour ensuite avoir le bouquin qui aurait pu faire 400 pages. Il en fait 96, mais il pouvait en faire 400.
Ouais. C'est étonnant quand même parce qu'il y a plusieurs bouquins qui mettent ce mot à l'honneur, des bouquins très sérieux, des bouquins de philosophes, d'essayistes. Comment ça se fait ?
Alors, ça, je me suis posé la question parce que quand j'ai eu cette idée soufflée par Yves Sand d'appeler ça tous cons, je trouvais ça vachement provocateur et original. C'était il y a un an, mais en fait, c'était pas du tout parce que j'ai vu qu'il y avait plein de bouquins avec le mot con en bien gros. Mmh. Et j'en ai lu quelques-uns, certains sont très très bien d'ailleurs. Je pense que ça dit beaucoup de notre époque. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une époque où on est en train de se rendre compte à quel point les réseaux sociaux sont en train de devenir débilisants pour l'entièreté de la société.
Mais avant, on disait ça de la télévision, avant.
On disait ça de la télévision, mais elle était beaucoup moins intrusive, parce que la télévision, à la rigueur, vous l'éteignez, c'était terminé. Les réseaux sociaux, vous pouvez quasiment même pas les éteindre. Et donc, on s'est aperçu que la foule se prenait pour le peuple, et que toutes les revendications personnelles faisaient, entre guillemets, sens. Il y a un bouquin qui s'appelle La fin de la démocratie, de Jean-Claude Kaufmann, qui parle de ça, et qui parle de la super-démocratie, c'est de l'hyper-démocratie, il appelle ça, c'est-à-dire où tout le monde peut expliquer son point de vue et pense avoir raison parce qu'il exprime son point de vue comme ça, sans filtre, avec les réseaux sociaux.
Il y a démocratie aussi qui existe aujourd'hui.
Il y a l'hémocratie.
Surtout dans les réseaux sociaux.
Il y a l'hémocratie aussi. Et donc, autour de moi, je ne connais personne qui soit plus heureux avec les réseaux sociaux que sans. Sauf peut-être Donald Trump. Mais c'est à peu près tout.
Ouais. Il y a une question qui traverse le livre. Il y a évidemment cette question de « Sommes-nous tous devenus aussi cons ?»
Et allons-nous le rester ? Point d'interrogation.
Voilà.
Il y a un petit espoir.
Il y a un petit espoir. Petit ou grand ?
Petit.
Petit. Il y a aussi cette question, con c'est une étiquette, on a tous aujourd'hui des étiquettes, vegan, écolo, que sais-je encore par rapport à la religion, par rapport à des choix de vie, des choix sexuels, etc. Et j'ai l'impression que la question qui traverse aussi ce bouquin, c'est le vivre ensemble. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus possible.
C'est le vivre ensemble et c'est le libre arbitre. Et on a l'impression que le libre arbitre n'est plus possible. Le vivre ensemble est difficile. En effet, tout est clivé. Vous devez être vegan ou pas. Vous devez être écolo ou pas. Vous devez être de gauche ou de droite. Et on a l'impression qu'il n'y a plus de débat vraiment possible. Moi, je fais mon petit acte de résistance personnelle, c'est-à-dire que je me suis retiré des réseaux sociaux où déjà j'étais pas très assidu. Et puis, j'essaie de parler avec les gens en vrai, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je vais assez souvent dans les écoles, et ce que j'entends dans les écoles est assez surprenant, dirons-nous.
Interpellant.
Interpellant, surprenant, mais toujours intéressant.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous entendez dans les écoles ?
Mais par exemple, j'en ai fait une au mois de novembre où je parlais de la liberté, parce que j'avais vu ce sondage, notamment chez les jeunes européens, et on leur demandait s'ils devaient choisir entre la liberté et la sécurité, que choisiraient-ils ? Et ils avaient répondu en majorité, la sécurité. Ce qui est quand même très très inquiétant. Il y a une jeune fille qui a levé la main et elle m'a dit « Mais monsieur, la liberté est-elle une opinion ?» Ah, je me dis,
vous avez 2 heures.
Vous avez 2 heures, exactement. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, non, la liberté, c'est un réflexe.
Oui, mais alors on se prend à se demander si finalement Margaret Atwood, quand elle écrit en 85 ou 7, je ne sais plus, La Servante écarlate, ne voyait pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Mais c'est possible, je ne sais pas où on en est et où l'on va. Moi, je crois une sorte de darwinisme quand même, c'est que les gens se rendent compte que les réseaux sociaux sont une plaie et ne font que renforcer une dictature. Mais c'est une dictature de l'imbécile heureux, en fait. Hein. Si vous lisez...
Et du consommateur.
Oui, mais si vous lisez les biographies de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, ce sont des gens qui, au départ, sont menés par une bonne intention qui est de rendre le monde meilleur, mais c'est en fait de rendre le monde plus efficace, où il n'y a plus du tout de libre arbitre. Et c'est ça qui est pour moi extrêmement inquiétant, et c'est ce que j'essaie de voir avec mes dessins qui offrent un miroir aux gens pour qu'ils arrivent à réfléchir sur la situation en général.
Alors, ces dessins, évidemment, sont des dessins de presse, c'est-à-dire qu'ils devraient, pour bien faire, susciter le débat. Mais finalement, quand un auteur écrit, dessine, mais il se met quelque part aussi dans ses dessins. Comment faire pour échapper aux étiquettes ? Comment faire pour échapper aussi au fait qu'à un moment donné, vous êtes comme un journaliste, sauf que le journaliste doit rester objectif et vous pouvez être dans la subjectivité.
Et moi, je dois rester subjectif.
Oui.
Donc c'est.
Il y a parfois un danger
Oui,
qu'on se dise, mais en fait, ce qu'il écrit, c'est ce qu'il pense.
Mais ce que j'écris, c'est ce que je pense, ça je l'assume tout à fait, je suis auteur, je signe mes dessins, mais comme l'a écrit Vizorek dans la préface, il a dit que j'étais de gauche avec les gens de droite et de droite avec les gens de gauche, et je prends un malin plaisir à faire ça, évidemment.
Oui, c'est
et surtout,
ça.
Je suis mon premier contradicteur, c'est-à-dire que je peux avoir des jugements à l'emporte-pièce comme Madame Ronchard, dont on parlera tout à l'heure, mais contrairement à elle, je me dis, ça c'est quand même une sacrée connerie que je viens de penser, et je vais la garder pour moi, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai mis aussi sur Twitter. Avant, quand on avait une connerie qui nous passait par la tête, on la gardait pour soi, maintenant on la tweet. Donc il y a plus il y a un exhibitionnisme forcené, et ce que je trouve de plus inquiétant peut-être, c'est ce qui va se passer avec la génération des millennials. J'ai moins peur pour la génération d'avant, les vieux comme nous, ou ceux d'après, qui auront ingurgité toutes ces innovations, mais les millennials, des gens nés en gros entre 85 et 2000, ils se sont pris toutes ces inventions d'une traite comme ça. C'est comme si on avait la révolution de Gutenberg et la révolution industrielle en même temps, et au lieu d'être étalé sur 50 ans, c'est étalé sur 10 ans. Donc ils ont balancé toute leur vie, c'est de l'exhibitionnisme constant, ils ont tout mis sur les réseaux sociaux parce que c'était nouveau, ils n'avaient pas le recul de ça. Et ce sont ces gens-là qui dirigeront le monde dans 10, 15 ou 20 ans. Et malheureusement, tout ce qu'ils auront mis sur les réseaux sociaux va les poursuivre. On a vu ce qui s'est passé avec la Ligue du LOL, avec les crétins de la Ligue du LOL, là. Ils ont posté des conneries.
Il faut le rappeler quand même, ce que c'est.
C'était des gens qui avaient, au début de Twitter, des journalistes parisiens qui avaient, dans ce Twitter naissant, décidé de balancer des horreurs sur sexistes en permanence dans ce petit réseau. Sauf que ce petit réseau est devenu grand, et ces gens-là, 10 ans après, ils étaient aux responsabilités, et les âneries qu'ils ont écrites 10 ans avant leur ont pété à la gueule, et donc ils ont été virés. Alors, avec les millennials, c'est-à-dire, vous savez, ces jeunes qui sont maintenant de jeunes adultes, qui ont tout mis toute leur vie sur les réseaux sociaux, du plus intéressant au plus insignifiant, ça va les poursuivre jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il y a un retour à l'intime qui va se faire. Et ça, c'est fondamental. Moi, j'ai des enfants, et je disais que la génération d'après, c'est-à-dire l'âge de mes enfants, qui ont 10-12 ans, ceux-là, on leur apprend, on commence à l'école à leur apprendre à ne pas tout mettre, à garder une part d'intime. Et la part d'intime, c'est vraiment la prochaine révolution qui soit.
Garder leur identité, quelque part. Parce que c'est ça, finalement. Quand on se débarrasse de son identité sur les réseaux sociaux.
Garder une part d'intime, garder un peu de secret. Je ne suis pas pour une culture du secret, mais garder cette part de soi qui peut forger le libre arbitre aussi.
Alors, il y a un autre album, on l'a dit, et là, vous n'êtes plus dessinateur de presse, mais vous êtes scénariste et dessinateur. C'est votre nouvelle BD, c'est un tome 1. C'est une auto-édition.
L'autre aussi, d'ailleurs.
Voilà. Madame Ronchard, tout vous énerve, elle est votre porte-voix. Ça se passe dans un petit pays, une île, qui a la forme d'un parapluie où il pleut tout le temps. C'est d'ailleurs le nom de ce pays, où Madame Ronchard va décider à un moment donné de réagir, mais de réagir par rapport à une idée que finalement, s'il y a de la pluie, c'est qu'il y a un complot derrière.
Il y a deux complots, c'est-à-dire que dans...
Il y a le foot aussi.
Il y a le foot, c'est-à-dire que l'équipe qui s'appelle les Asperges Blanches, l'équipe nationale, est la plus nulle de la planète. Mm-hmm. Elle n'a jamais gagné un match de toute son existence, et en plus, il pleut tout le temps, il pleut tout le temps, et Mme Ronchard part du principe que c'est un complot organisé par les puissants, et donc elle va décider que ça suffit, et qu'il faut qu'elle prenne le pouvoir. Donc le premier tome, c'est son ascension vers le pouvoir, vous verrez pour la suite. Mais c'est une histoire que j'ai écrite en 2009 et que j'ai écrite au même moment que j'ai écrit Maudit Mardi, sauf qu'il fallait que je choisisse, donc j'ai choisi de faire Maudit Mardi à l'époque. Et donc j'avais écrit cette trilogie en 2009, sachant que Madame Ronchard avait été inventée au moment de l'affaire Dutroux, parce qu'imaginez l'affaire Dutroux avec les réseaux sociaux, ça aurait été quelque chose. J'avais besoin d'un personnage qui pouvait catalyser les pensées de l'homme de la rue qui est devenu une femme de la rue. J'avais écrit ça en 2009, je l'ai laissé de côté, mais ça trottait dans mon esprit, et parce que ça parlait du populisme, ça parlait des thèmes qui sont là aujourd'hui. Alors les Asperges Blanches, c'était l'équipe de football qui était nulle, parce que les Diables Rouges à l'époque étaient complètement nuls, c'est pas comme aujourd'hui. Mais donc, je me suis aperçu que ça revenait dans ma tête, et ça avait pris du corps, parce que quand on écrit une histoire, parfois ça peut devenir du vinaigre et puis parfois ça peut se bonifier, et c'était le cas, et c'est pour ça que j'ai décidé de la dessiner finalement, et je me suis amusé comme un petit fou du début à la fin.
C'est une comédie, mais moi j'ai vraiment pris cette comédie de manière presque réaliste, c'est-à-dire j'ai trouvé ce bouquin très sombre, on rit, mais c'est vachement sombre.
C'est très sombre, on ne se refait pas.
Non, mais je veux dire, c'est à ce point réaliste aujourd'hui par rapport au foot, par rapport à l'homme ou la femme de la rue, par rapport à tout ça et à la politique en particulier, j'ai trouvé ça mais terriblement noir finalement.
Mais c'est pour ça que j'ai créé ce pays de toutes pièces qui s'appelle le pleut tout le temps. Et ma fille m'a dit, mais ça se trouve où le pleut tout le temps exactement? J'ai dit, bah on peut pas savoir justement, parce que au plus on s'éloigne de la réalité, au plus on peut s'approcher du réel. Et c'est ce que j'essaie de faire dans un album de bande dessinée comme ça, qui est en fait une sorte de spin-off de mon métier de dessinateur de presse, parce que c'est du dessin politique mise en scène en bande dessinée. Parce que c'est quand même une critique sociale acerbe, ce qui est mon job tous les jours en tant que dessinateur de presse. Donc, mais il y a de la mise en scène, parce que j'adore faire de la mise en scène et faire de la bande dessinée. Et donc les deux sont complémentaires, on peut comprendre l'un en voyant l'autre.
Ouais, et on a accès finalement aussi à votre côté sombre.
Mon côté sombre, vous le voyez quand même dans mes dessins. Les gens me disent toujours, vous faites des dessins sombres, mais j'ajoute toujours, oui, mais avec des jolies couleurs.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un petit making-of à la fin de Madame Ronchard.
Tout à fait.
Qui m'amène à cette dernière question. Il y a quand même, dans cette noirceur, une petite porte de sortie. Elle pourrait être où, cette petite porte de sortie? Dans le métier que vous faites, vous sentez qu'à un moment donné, il peut être utile ce métier-là, pour que les gens puissent avoir un moment donné...
Alors, je me pose toujours la question, et il y a des lecteurs qui m'apportent la réponse. Moi, je dis toujours que j'essaie de faire ce métier pour mettre le monde à distance afin de le rendre plus supportable. Ça, c'est ce que je fais.
Ça, c'est pour vous.
Ça, c'est pour moi, mais c'est aussi pour mes lecteurs. Ça fait quand même 26 ans que je suis au Vif, 12 ans que je suis à l'Écho, donc j'imagine que les lecteurs ressentent ça aussi. Et j'ai beaucoup de chance de faire ce métier-là. D'abord, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais surtout, j'ai un poste d'observateur. Je peux analyser la société avec des dessins, avec des images. On est dans un monde de l'image, tout en ayant de la réflexion derrière. Et donc, pour moi, c'est un poste tout à fait stratégique pour observer la société, tout en mettant une dose d'humour quand même. Mais l'humour, chez moi, n'est jamais une fin, c'est un moyen.
Merci beaucoup, Nicolas Vado. Je rappelle...